Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, c'est la deuxième heure de Culture Média. Suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain outre-Atlantique et Bertrand Chameroy pour son écran de veille outre-mesure. Notre invité culture, c'est l'écrivain Romain Puertolas pour son nouveau roman. C'est lui qui avait signé l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Il est sorti de l'armoire. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, on est mercredi, sélection des sorties ciné du jour avec Mathieu Charrier. Et puis on va passer en mode frisson avec trois jeux vidéo pour Halloween testés par Clément Le Saffre. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy à la basse.
Bonjour
pendant le générique.
Philippe.
Comme tous les jours, c'est votre écran de veille à ce moment-là. Comment ça va Bertrand?
Oh, bah écoutez, sur une échelle qui va de bof à vraiment au fond du seau, je dirais que je me situe à bref. Je voudrais pas mettre une mauvaise ambiance, mais vous aimez bien Louis de Funès?
Ouais.
Bah ça tombe plutôt bien, parce que vous allez passer pas mal de temps avec lui dans les semaines qui viennent. Alors avant que ce ne soit plus possible, je vous propose de vous évader,
oh
de
non.
voyager, de sentir une dernière fois l'odeur de la lavande, d'entendre les cigales chanter, visser votre chapeau de paille sur la tête. Je vous emmène à Cavaillon, au pays du melon.
Bonsoir à tous. Bonsoir professeur Raoult.
Bonsoir.
Bonsoir. Après Radio Classique, RTL, Sud Radio, BFM face à Bourdin, BFM face à Routel, Krief, CNews deux fois avec Laurence Ferrari, Darius Rochebain sur LCI et CNews avec Jean-Marc Morandini, le professeur Raoult était hier et pour la deuxième fois en moins de 5 mois l'invité de David Pujadas sur LCI. Le même professeur qui déclarait il y a quelques jours sur CNews.
Pourquoi vous, vous réussissez ou là où les autres échouent?
C'est parce que je passe moins de temps à parler sur les tables de télévision qu'à travailler.
quel déconneur, ça faisait bien de rire par les temps qui courent. Enfin, ceci dit, techniquement, il a raison. Il passe pas son temps sur les plateaux de télé puisqu'il fait déplacer les journalistes chez lui. Malin. Une interview annoncée par la chaîne dans un tweet que je cite. Il ne croyait pas au retour du virus, il n'imaginait pas la deuxième vague. Que dit-il aujourd'hui? En gros, traduction, il s'est quand même gouré au moins deux fois avec beaucoup d'assurance. Tiens, on l'inviterait pas encore une fois en pleine période de grand flou où tout le monde flippe? Il a peut-être une dernière chose à sortir. Ou si ça se trouve, il va faire son mea culpa ou son autocritique, qui sait? C'est mignon, hein. Je vous rappelle qu'on parle de Didier Raoult, que certains ont souvent présenté comme un mage. Erreur, il y avait une coquille, il fallait lire comme un moi-je.
On vient de sortir une publication qui est online sur toute la saison. Tous les jours, je publie toutes les courbes. J'écrivais ça dans mon premier Que sais-je en 1998. Je suis très content. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai écrit, je l'ai publié et c'est vrai. Point final.
Point final. Ambiance. Enfin, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, hein, c'est que toutes les boîtes de nuit et les clubs ne sont pas fermés. Non, pas tous. Hier, David Pujadas est entré sans le vouloir dans un club SM où il s'est fait fouetter alors qu'il n'avait rien demandé.
Non, non, mais vous confondez les sentiments, la connaissance, pas du tout. Vous avez un problème, si vous voulez. Vous avez un problème, c'est que vos références scientifiques ne sont pas des scientifiques. Vous avez un vrai problème.
Mais c'est pas des références scientifiques.
Laissez-moi terminer.
C'est pas des références scientifiques.
Laissez-moi terminer. Je me demande si vous comprenez bien ce que je dis.
Vous êtes tous fous.
Vous
On
êtes
va
devenus
y venir.
Tous cinglés.
Mais... Vous-même avez
non
dit...
Mais écoutez-moi, encore une fois, si vous voulez me donner des leçons sur le
non,
coronavirus,
je ne veux pas vous donner des leçons, mais...
ridicule. Je ne vais pas changer votre cervelle comme elle est.
Il était à deux doigts de le fesser avec un bidon de chloroquine. Mais heureusement, ça ne s'est pas produit, car au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva. Didier Raoult a beau être brillant et au-dessus de la moyenne, ça n'en reste pas moins un être humain. Il a bugué. Erreur 404.
Il n'y a pas une explosion exponentielle
Ah oui, le meilleur moyen dans ces moments-là, c'est de cliquer sur redémarrer ou sur mise en veille. Oui, mise en veille, tiens, c'est pas mal. Voilà, ainsi s'achève notre escale à Cavaillon. Prochain arrêt, votre appartement H24. Allez, bonne journée et force à tous pour ce revival du mois de mars pluvieux qui nous attend.
Merci beaucoup Bertrand, Eva.
Oh là là, il m'a mis le bourdon.
Mais tellement, on l'entend plus le bourdon qui tourne. Avec vous, on va se projeter dans un avenir proche.
Oui.
Celui de notre soirée devant les écrans.
Oui,
de toute façon,
hein.
On n'a pas le choix.
Bah,
hein. Qu'on veuille ou pas, on est confiné.
Exactement.
À quoi ressemble votre zapping du lendemain et quel en est le thème?
Alors, la culture américaine. Je ne parle pas de culture culinaire entre hamburger et une fameuse boisson gazeuse. Non, je parle de ces images d'Épinal qui viennent à l'esprit à l'énonciation du double mot États-Unis. La route 66, par exemple, sur laquelle, cheveux au vent avec Bertrand, nous pourrions rouler à l'infini à bord d'une Harley Davidson. Et des Harley, justement, vous allez en voir beaucoup sur Canal+, ce soir. Qui sont ces bikers qui aiment Trump au point de faire campagne pour lui? Réponse.
Des bons à rien, des hors-la-loi, des criminels, c'est ce qu'on dit de nous. Hollywood a voulu créer cette image, mais en réalité, les bikers sont surtout des patriotes, des travailleurs, des vétérans de l'armée.
Bon, et donc, sous-titre, pas si méchant que ça. Mouais. Alors, à la 34e seconde de ce documentaire, on entend leur leader Chris Cox, ami de Trump, dire ça.
On est les bikers pour Trump. On doit donner une image présidentielle. Si on frappe en premier, on enfreint la loi. On sera vu comme les agresseurs et traités d'extrémistes. Donc essayons tous de rester calmes.
Et on sent que dans le « essayons tous », il faut vraiment essayer. Voilà, alors je passe sur ce biker que l'on retrouve sur la terrasse de sa maison, une arme à la main, qui la hume et qui déclare « tu sens l'odeur de la liberté ». Voilà, reste que ce documentaire est très instructif sur la façon dont les bikers se sont rendus indispensables auprès de Trump et comment ils mènent campagne à travers tous les États-Unis en lien parfois avec les groupes d'extrême droite. Donc, dans la culture américaine, il y a bien les motards, ouais, mais aussi les westerns.
Ah oui.
Et sur ce point, je vous invite à découvrir la géniale nouvelle série animée d'Arte intitulée De Gaulle à la plage. On est en 58, De Gaulle est aux abonnés absents, avec son aide de camp Le Bornec et son épouse Yvonne. Il part au bord de la mer, il s'offre quelques jours au bord de la mer et notamment, il décide de s'offrir une séance de ciné en plein air, un bon western, dans lequel le héros à cheval, souvent la jeune indienne, ressemble quand même trait pour trait au général.
Vous voici débarrassé de cette chienlit, mademoiselle. Allez, Udia Bronco, nous ramenons la petite dame.
Quête-clope, yeah, au galop.
C'est une série totalement déjantée et très drôle qui est adaptée de la bande dessinée éponyme de Jean-Yves Ferry à découvrir sur Arte.tv avant sa diffusion à l'antenne. Ça s'appelle De Gaulle à la plage. Et puis les États-Unis, c'est aussi New York. Et d'ailleurs, dans l'extrait qui suit, issu de l'épisode du soir de 10%, Élise, agent artistique, reçoit un SMS depuis l'Amérique.
Oh, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas de si ? Non. Gilles Lelouch qui veut faire une partie de Uno en ligne.
De Uno ?
Ouais, il tourne à New York, il s'emmerde dans son sac étoile et c'est à moi de le divertir.
Bah ouais, bah ça fait partie de son travail.
Voilà. Alors mon Gilles, tu vas aller faire un petit tour à Central Park parce que moi je bois un verre avec ma copine et je coupe mon portable.
Anne-Marie Vin face à Camille Cotin dans un des épisodes du soir qui met en scène Sandrine Kimberlin et Muriel Robin. Un bonheur, le meilleur épisode de la saison, à mon sens.
Formidable.
Voilà. Je récapitule, l'America Moto, c'est dans Bikers for Trump, l'escadron de la Maison Blanche sur Canal+, à 21h05. Le western est dans De Gaulle à la plage, quand vous voulez, sur Arte.tv. Et Central Park, c'est dans 10% sur France 2, dès 21h05.
Bon, j'ai eu les premiers épisodes, je trouvais déjà ça super. Oui. Alors si le meilleur c'est maintenant, bravo.
Voilà.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Cataclope.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Romain Puertolas.
Bonjour Philippe.
Romancier connu dans le monde entier depuis votre premier roman en 2013, traduit dans 40 pays, 1,5 million d'exemplaires vendus, qui est devenu un film, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Magnifique titre. Là vous venez pour un nouveau roman, Sous le parapluie d'Adélaïde, c'est chez Albin Michel. Il y a toujours des histoires abracadabrantesques chez vous. Comment résumer celle-ci ?
Alors là, pour le coup, c'est moins abracadabrantesque, c'est moins rocambolesque. J'ai quand même fait une rupture avec ce que j'écrivais avant, notamment le Fakir. On est dans un livre un peu plus sérieux, un peu plus dramatique aussi. C'est une enquête, mais pas une enquête policière, c'est une enquête d'une avocate. Voilà, ouais. Je ne voulais pas mettre de policier dedans. Donc on suit une jeune avocate très brillante, et en fait qui a été commise d'office puisqu'il y a un homme qui a été arrêté après qu'on ait trouvé le cadavre de Rose Rivière, une jeune femme étranglée parmi la foule, sous les parapluies, il pleuvait ce jour-là, devant 500 personnes, non pas dans une rue déserte à minuit, non, devant le spectacle de Noël, le 25 décembre, à 11h30, devant 500 personnes. Et donc, on trouve une photographie sur laquelle on voit des mains noires étrangler cette jeune fille pile à cette heure-là, pile l'heure du crime. Et donc la police va se précipiter pour interpeller la seule personne noire dans la ville à ce moment-là. Et cette avocate est convaincue de l'innocence de cette personne-là et va tout faire pour le démontrer.
Elle va arriver à le sortir de prison, je ne vais pas dire comment ni pourquoi. Enfin pourquoi, parce que c'est l'avocate, mais comment elle le fait, je ne vais pas le dire. On ne sait pas trop quand ça se passe, on comprend bien à la fin. Il y a peu de dates dans le roman, mais elles sont très importantes, je ne vais pas les dire. Vous-même, vous employez le mot photographie et non pas photo. Dans le roman, on dit des photographies des automobiles. On se doute que ce n'est pas une histoire contemporaine. Et puis, il y a le choix des mots. Les Allemands sont des boches, le noir est un nègre. Pourquoi ce choix ?
Ben justement, on ne peut pas trop en dire parce que...
Non mais je me dis, ouais. Est-ce qu'il ne veut pas s'amuser avec cette époque où il n'y avait pas le politiquement correct? On pourrait encore dire que oui. Les Allemands étaient des boches.
Oui, aussi, oui. Ben, je pense qu'il y en a encore qui doivent dire boches.
Oui, mais on ne peut plus l'écrire maintenant.
Ah, peut-être pas.
Et je peux vous dire que si vous écrivez nègre dans votre roman...
Oui, il y a une raison, voilà, il y a une raison. Je ne donne pas beaucoup de pistes pour que justement le lecteur joue un petit peu à l'enquêteur, aussi à l'enquêtrice avec cette avocate, et qu'on parte vraiment dans un puzzle à monter. Où est-on? Quand est-on? Et tout ça, c'est très important en fait. Pour moi, ça a été très jouissif d'écrire parce que j'écris vraiment avec des pincettes, parce qu'il faut qu'à une première lecture, il y a un énorme coup de théâtre à la fin, comme ouais. J'avais fait dans La Police des Fleurs. Un coup de théâtre à la fin où on se dit « Waouh, c'est pas vrai !» Je ne l'ai pas vu. Alors, pour faire ça, c'est très difficile parce qu'à une première lecture, il faut que ce soit invisible, mais qu'à une relecture, à une deuxième lecture, ce soit évident. Et c'est très compliqué. Alors, j'ai une formation de linguiste. J'adore jouer justement avec les mots, la polysémie des mots et tout ça. Et c'est ce qui fait que le lecteur se trouve des fois un petit peu perdu. Mais à la fin, pour créer cette grande surprise et cet effet waouh que j'espère et que j'attends à chaque fois.
Ah oui, mais c'est construit comme une partie de Cluedo avec un twist, vous l'avez dit, assez incroyable à la fin. Et il y a des fausses pistes partout. Et vous dites même que c'est des fausses pistes. En fait, c'est du métalangage. Vous écrivez sur l'écriture.
Oui, je donne des pistes au lecteur, mais je suis quand même très sincère. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime pas trop les policiers dans lesquels, vous savez, on vous présente au début 3-4 suspects, et puis à la fin, c'est forcément hein, ouais. Un des deux. Voilà, bon, alors, ok. Moi, j'adore justement ce petit côté qu'avait Agatha Christie, dans lequel l'assassin, ok, on sait qui est l'assassin, mais l'assassin, il y a un gros coup de théâtre. L'assassin est le narrateur, l'assassin est le policier qui enquête, l'assassin est une personne qu'on croyait morte, l'assassin est un enfant. Enfin, vous voyez, chez Agatha Christie, il y avait cet effet-là que je recherche, moi, dans mes livres depuis La Police des Fleurs.
Il n'y a pas de lieu de ville. C'est des initiales.
C'est M, oui, c'est ça.
Pourquoi?
Alors, en fait, c'est des villes...
Du point de vue de la narration, qu'est-ce que ça apporte de mettre une initiale plutôt que dire Montluçon ou Montpellier?
Ouais, mais vous savez, c'est quand même un recours littéraire assez fréquent. On avait ça dans Proust, ils allaient à V. Ou à S, et on trouve ça dans quelques romans, et j'ai décidé de faire la même chose, surtout pour que les gens puissent s'imaginer que c'est chez eux, en fait. Vous savez, un petit village P, une grande ville M, ben chacun va savoir ce qu'est son petit village et sa grande ville, et donc s'amuser avec ça. Voilà,
voilà. Et P, c'est pas Paris, parce que vous la citez en toutes lettres. Vous
exactement.
Avez, vous ouais. avez aussi raconté que c'était là l'histoire, je vous cite, à peine romancée, de ma tante et de mon oncle, tragique dans la vie réelle, tragique dans le roman. Il la battait. Il y a eu un assassinat chez vos oncles et tantes?
Non, mais oui, c'est vrai que ma tante a eu une vie assez difficile. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'assez difficile, un agriculteur qui l'a enfermé. On est un petit peu dans le conte de Barbe Bleue. Il est un petit peu enfermé psychologiquement, physiquement, dans une maison au milieu des vergers. Lui, s'intéressait qu'à ses terres.
Ouais.
Il ne s'intéressait qu'à ça. Il n'a jamais pris de vacances. Ils n'ont jamais rien fait. Elle s'ennuyait. Et il lui disait bah, « fais-nous des gosses ». Elle a fait 3 enfants, j'ai 3 cousins. Et quand j'y allais, moi, pendant les grandes vacances, c'était un homme assez tyrannique. Et voilà, elle était enfermée. Elle trouvait sa seule évasion dans la littérature et dans le suicide, malheureusement. Elle s'est suicidée à 43 ans. Voilà, c'est-à-dire,
Et l'oncle est encore vivant?
Lui, il est encore vivant, oui.
Vous lui avez envoyé le livre?
Non, pas du tout. Je ne sais même pas où il est. Il est peut-être parti en Argentine. Il avait des terres en Argentine. Et voilà, ils ne se sont jamais posé de questions sur... Il ne s'est jamais posé de questions sur le fait que ma tante puisse être malheureuse à cause de lui.
Et vous savez qu'en Argentine, on peut entendre Europe 1 sur Europe 1.fr. Vous avez même l'image, si vous allez sur Europe 1.fr, vous pourrez voir le visage de Romain Puertolas et dans quelques instants, le visage d'Hélène Manarino qui entre dans ce studio pour dresser votre portrait inattendu. Ah. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Sous le parapluie d'Adélaïde, c'est le titre du dernier roman de Romain Puertolas qui va se retrouver sous l'éclairage d'Hélène Manarino.
Oh, c'est beau, bonjour.
Bonjour Hélène, je viens de la trouver.
Oui, je vous connais, je sais, ça arrive comme ça.
Ouais,
bonjour Romain Puertolas.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Roro, je vais commencer par citer une réplique du film que vous avez réalisé plus jeune, La vengeance du chat. Film inspiré par Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. Et la réplique du méchant était « Je connais tout de toi ». Eh bien, c'est le cas ce matin. Enfin, presque tout. Romain Puertolas, joueur, oui, avec une imagination débordante, sans limite. Finalement, cette chanson de votre adolescence vous correspond bien.
Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou.
Oh là mais là. Oui, vous êtes fou. Philippe aussi.
Vous écoutiez ça?
Ah oui, oui, oui. Oh là là, j'écoutais ça et NTM, ce qui n'a rien à voir.
Ah non, ça n'a rien à voir. Vous êtes en train d'insulter NTM. Hein,
j'écoutais tout. Ouais.
Mais il faut un peu de folie quand même. Petit, vous aimiez jouer au Playmobil. La nuit, vous vous leviez en cachette pour jouer sans règle, puisque... Vous mettiez le feu à vos Playmobil pompiers pour les confronter à un vrai incendie.
Vous avez eu ma mère ou quoi?
Il brûlait.
Je ne sais pas.
Quelle idée géniale.
Je sais. D'ailleurs, votre rêve, c'était de devenir pompier. Alors, dans votre caserne imaginaire, il y avait beaucoup de bandes dessinées, de contes de Jules Verne, des cahiers remplis de vos premières enquêtes. Vos interventions, c'était souvent en cours d'espagnol. Vous aimiez beaucoup, beaucoup votre professeur. Mais aussi en cours de latin. Bon, là, c'était plutôt les fous rires à cause d'un nom, Janus. Vous étiez à chaque fois viré de cours.
Oui, d'accord. Ouais. Alors, je vois qui c'est. Ouais.
Janus Bisson.
Je voyais Janus. Ouais. Hein ouais. J'avais un copain et puis c'est moi qui prenais. C'est lui
mais
qui
c'est
me
toujours
disait,
comme ça.
Il disait Janus, Janus. Et alors, je mourais de rire. Et la prof, c'était Romain. Elle est au fond du... Voilà, c'était moi qui prenais tout.
Il s'appelait comment le copain, vous pouvez saluer?
C'est hein. Jérôme. Ouais. Jérôme.
Pas d'alarme enclenchée quand vous faisiez des bêtises. Vous pouviez compter sur votre beau-père Guitou. Il vous regardait dans les yeux en disant à chaque fois « Tu me regardes quand je te parle ». L'alarme que vous préfériez, c'était la vôtre. Votre musique, votre groupe d'ados FBI, ouais. Avec votre meilleur copain, celui qui vous piquait des barres Kinder chez vous. Il vous l'avouait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Alors...
le coming out dingue.
Mais Jérôme, tout, il avait... tout compte. Hein.
Jérôme, il avait des fjords chez lui, c'était des yaourts, ouais, c'était ouais. Super bon. Il n'y avait c'est que vrai. Chez lui qu'on en mangeait. Et chaque fois qu'on arrivait chez lui avec notre pote Paul, eh ben, on lui bouffait tous ses fjords.
Voilà. Donc c'était Kinder contre fjord.
Ouais,
très
c'est
bien.
Ça,
alors,
exactement.
FBI signifiait Force Brother Intouchable.
Intouchable, ouais.
Vous étiez DJ Scratcher, vous ouais. Mettiez l'ambiance. D'ailleurs, vous avez donné un petit concert, mais il n'y avait que 5 personnes, votre famille.
C'est bien.
C'est bien, oui, bien sûr. On a pu vous retrouver aussi sur Radio Méga à Valence, 99.2 la semaine. Ouais. Et ceux qui vous ont inspiré pour tout ça, c'est eux.
Tout le monde crie, tout le monde trace devant l'attaque des poètes venus de la planète Marseille.
Eh oui, Planète Mars, IAM. Vous avez pu rencontrer d'ailleurs hein, le
oui,
groupe.
Oui, j'allais chez lui à l'époque. Ouais. Ils n'étaient pas encore connus, ils n'avaient pas sorti. C'est le Mia qui a tout changé. Ouais. Moi, j'allais chez Philippe Fradjon, chez Chill. Avant, j'étais à Marseille, j'allais chez lui et c'était super sympa.
Et c'est son troisième nom, c'est Akhenaton. Je voilà, le dis parce que les gens disent oui, qui est ce vrai. Chill dont ouais, il parle. Ouais, voilà, il a Akhenaton. Trois noms.
Il est plus connu sous le ouais. Nom d'Akhenaton.
Vos talents ne s'arrêtent pas là puisque vous savez aussi imiter l'eau qui tombe dans un verre. Alors, on veut cette imitation.
Bon, je vais essayer. Avec le masque, c'est compliqué. C'est plutôt bière, hein, une bière.
Ouais, ouais, je me disais ça.
La mousse. Hein, ouais.
C'est ça plutôt bière. Ça marche pas du tout.
Si, ça marche bien.
Non, ça marche bien. Aussi,
ça marche bien.
Alors, mode de vie cool, sans oppression. La musique, vous continuez évidemment chez vous à Malaga ouais. avec votre platine MK2. Alors, comme vous dites. À Malaga, je suis en slip toute l'année, comme il fait toujours beau.
C'est
eh bien oui, ah oui, il fait bon vivre.
Vous n'êtes pas en slip toute l'année.
Ah,
vous êtes
suis en
short
slip
toute
et en tongs. Non, ma femme m'a acheté des shorts parce qu'elle ne supporte pas de me voir en caleçon et voilà. Mais je les supporte pas. Donc dès qu'elle est pas là, j'enlève. Donc je passe toute la journée à la maison en slip ouais. Et en tongs.
Votre femme est jamais là. Ça fait une deuxième.
Alors vous bah, aimez. Travail, non, mais attendez, alors... parce que vous aimez faire le ménage. Beaucoup. Vous adorez ouais. Ça, vous êtes maniaque.
Ouais,
vous
maniaque,
ne regardez
ouais.
Jamais les infos, pas de télé, pas de série. Et comme vous aimez souvent déclarer, il pourrait y avoir une troisième guerre mondiale que je ne serais pas au courant.
Non. C'est vrai, je vis à la Villa Fakir. J'ai une ouais. Maison à Malaga, vue sur la mer, sous le soleil. Et je ne m'intéresse à rien du tout en dehors de ça.
Mais attendez, vous savez qu'il y a le confinement, c'est que vous risquez de jamais retourner à Malaga.
Mais je suis...
Suivant ce que va annoncer le président
Macron
demain.
Moi, je suis confiné chez moi. Là, justement, je suis sorti. Alors, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je rentre ce soir à la maison, peut-être.
Romain Puertolas, parfois dans votre bulle, vous êtes capable de vous endormir dans le train et louper votre arrêt. Vous avez écrit votre livre. Quelques parties, en tout cas, debout dans les transports en commun. Vous
oui,
vous
ça,
envoyez.
Mais pas la première partie, non. Je ne me suis jamais endormi. Ça.
Ah si, et vous avez loupé un des arrêts de train.
Non, jamais.
Bon.
Mais en tout cas,
il y a peut-être un exemple.
Moi,
mais
je vous
sinon,
ai vu.
On va régler
moi,
ça demain. On va régler ça demain à l'aube sur le pré.
Quand j'écris, ouais, j'écris.
Vous mettez SMS avec des petites notes. Fou, toujours âme d'enfant que vous avez gardé. Vous vivez votre rêve. Vous le répétez souvent. Une caserne remplie de souvenirs, d'anecdotes. N'éteignez jamais votre folie.
Merci,
merci
beaucoup, Hélène.
Merci, c'est gentil. Merci Jérôme, si c'est toi.
Ouais. Ouais,
ou maman. Ou merci maman.
Il y a du fjord. Qu'on a fait livrer.
C'est vrai.
Non, c'est faux, évidemment. Dans un instant, notre premier indispensable, Mathieu Charrier, qui va nous faire découvrir une sélection des sorties cinéma du jour. On est mercredi, avec notamment le très attendu film de la réalisatrice Mai Wen. A tout de suite. Merci, Hélène. À demain.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie du romancier Romain Puertolas, vous allez entendre qu'il n'est pas seulement romancier, il a même été DJ sous le parapluie d'Adélaïde. Ça vient de sortir chez Albin Michel. Hélène Manarino disait que vous étiez essayé au métier de cinéaste. La vengeance du chat, vous aviez quel âge ?
La vengeance du chat, j'avais à peu près 15 ans, 14-15 ans. On a fait ça avec des copains, dont Jérôme, que je citais tout à l'heure. Il y avait Paul aussi, donc le groupe de rap. Il y avait Stéphane, un voisin. Et on se battait, c'était tout est prétexte, hein, comme dans le film de Jean-Claude Van Damme ou de Bruce Lee, tout est prétexte pour se bagarrer. Et puis on se mettait de la peinture rouge. Alors c'était filmé par mon beau-père au caméscope. Hein, ouais. Et on se mettait de la peinture rouge, on faisait des arrêts caméra, pof, on se foutait de la peinture et hop, on reprenait. Ce qu'il y a, c'est que le truc, c'est que la peinture n'est pas partie. On s'est frotté à l'essence de térébenthine. Le lendemain, on est allé au lycée, on avait des taches rouges partout, enfin voilà. C'était assez marrant.
Et vous avez arrêté le cinéma depuis ou vous avez continué ?
Non, à Madrid. Après, j'ai vécu à Madrid et j'ai fait des courts-métrages. Voilà. Et puis ensuite, alors maintenant, je suis rentré dans la cour des grands parce qu'avec le film, je suis devenu co-scénariste de l'adaptation cinématographique de mes romans. Et voilà. Mais c'est marrant d'être passé de ça à ça. En
fait. Voilà. Et si ma fille était là, elle dirait « Est-ce que dans La Vengeance du chat, il y a un chat ?»
Ben non, c'est en fait le chat, voilà. C'était moi. C'est parce que dans le calendrier chinois, je suis né en 75 et c'est l'année du chat, voilà, tout simplement.
Mathieu Charrier, vous êtes né en quelle année ? Vous êtes quoi ?
87, alors j'en ai aucune idée.
Bon, voilà. Mais vous êtes Mathieu Charrier, vous êtes spécialiste
le
de cinéma.
On va dire, c'est chic.
Bien sûr. Et nous sommes, tant que vous n'êtes pas le myope, c'est la sélection cinéma. On est mercredi.
Oui, il faut y aller vite, hein, parce que si les cinémas ferment ce soir.
Allez-y.
On commence par le film de Mai Wen, ADN, dans lequel la réalisatrice de Police ou Mon Roi, notamment, joue de nouveau le rôle principal, celui de Neige. C'est une jeune femme. Divorcée, mère de 3 enfants, et qui tient grâce au soutien de son grand-père, Émir, lui-même en maison de retraite. C'est vraiment lui qui la protège, notamment de cette mère si toxique, campée par Fanny Ardant. Voilà, c'est une famille compliquée, il faut imaginer les rancœurs, les non-dits qui étouffent tout le monde. Jusqu'au jour où ce grand-père meurt, la famille se déchire et Neige va vouloir en savoir plus sur ses origines, son ADN, d'où le titre. Mai Wen a décidé de faire ce film à la mort de son propre grand-père, écoutez-la.
C'était mon corps qui parlait pour moi, c'était même pas mon cerveau. J'étais complètement habitée et obsédée par mes origines. J'avais besoin de connaître l'histoire de mes origines, l'Algérie. J'avais besoin de connaître l'histoire entre ces deux pays cousines, c'est-à-dire la France et l'Algérie. C'est comme si la mort de mon grand-père m'avait donné la notion du temps qui passe. Puis j'ai surtout décidé de vraiment m'intéresser aux gens qui m'avaient construite plutôt qu'à ceux qui m'avaient détruite.
Voilà, je vais vous dire, c'est un film très intéressant sur la question de nos racines, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Neige, elle a notamment un meilleur ami qui est joué par Louis Garrel et leurs échanges sont très savoureux. Le duo aussi qu'elle forme avec Fanny Ardant, sa maman. Après voilà, c'est Mai Wen, c'est moi, donc il faut aimer le cinéma et le personnage de Mai Wen, ce qui est mon cas, je précise, mais je le dis pour nos auditeurs, ça s'appelle ADN.
Deuxième film français que vous nous conseillez cette semaine, c'est Garçon Chiffon, première réalisation de Nicolas Maury.
Oui, vous savez, Nicolas Maury est popularisé pour son rôle d'Hervé dans la série 10% de France 2. Il passe derrière la caméra tout en jouant lui aussi le premier rôle. Et c'est un peu son histoire qu'il nous raconte, une histoire très mélancolique, celle d'un jeune comédien qui n'arrive pas à faire son trou dans le milieu, qui est aussi en crise de couple car il souffre d'une jalousie maladive. Il est du genre à mettre des petites caméras dans l'appartement pour vérifier que son copain ne fait pas n'importe quoi. Bref, il est en crise d'identité. Qui est-il au fond ? Que veut-il ? Pour répondre à cette question, il devra le retourner chez maman, jouée par Nathalie Baye, dans sa maison du Limousin. Celle-là même, cette maman qui le surnommait « Petit Mon Chiffon ». D'où le titre « Un garçon chiffon ». Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire ce garçon chiffon, Nicolas Maury ?
C'est comme une matière chimique, c'est comme le caractère de la bruyère, il y a le jaloux, nanana, et j'ai voulu faire le chiffon. Par exemple, il y a un glissement de sens très intéressant, parce qu'un chiffon en français, c'est une matière plutôt pas noble. Et par exemple, en haute couture, en anglais, le chiffon, c'est la matière de soie la plus pure. Donc j'adore déjà ce glissement entre deux langues. Et puis c'est aussi, la chiffon, c'est ce surnom d'enfant que lui donne sa mère et souvent on n'aime pas ça et puis après quand on grandit on se dit ah oui c'était plutôt bien vu.
Et tout ça donne un film excentrique, un poil égocentrique parfois là encore comme le film de Mai Wen, mais c'est une vraie proposition de cinéma, jolie, originale qui raconte aussi ce besoin d'être aimé pour un premier film signé Nicolas Maury. On a envie de voir la suite, ça s'appelle donc Garçon Chiffon.
Et puis deux autres films pour terminer Mathieu.
D'abord Sous les étoiles de Paris de Claus Drexel, Catherine Froh joue Christine, SDF depuis des années, qui vit sous un pont de la capitale lorsqu'un jour débarque un jeune garçon de 8 ans, Sully, il est tout perdu, il ne parle pas français et vous me voyez arriver, les deux vont s'apprivoiser et partir à la recherche de la maman de Sully. Alors le réalisateur, il avait tourné un documentaire avec des SDF qui était formidable il y a plusieurs années, poignant, efficace, ce qui n'est pas le cas de ce film je trouve, qui essaie de jouer à la fois sur le réalisme tout en flirtant avec le conte, ça fonctionne pas vraiment. En revanche, dernier film, et celui-là je vous le conseille, ça s'appelle Une vie secrète. On est en Espagne en 1936, les troupes franquistes débarquent dans un petit village et Higinio, militant républicain, est arrêté. Il parvient à fuir, à se réfugier dans son ancienne maison. Avec l'aide de sa femme, il va s'y cacher pendant des années. Une situation qui a existé en Espagne avec certains hommes qui sont restés planqués pendant près de
30 ans dans leur maison, dans les murs, dans les cloisons, jusqu'en 1969, où a été décidée une prescription générale. On les appelait les taupes, parce que certains n'ont quasiment pas vu la lumière pendant tout ce temps. Voilà, c'est ce que raconte ce film. Pendant près de 2h30, c'est parfois un petit peu fastidieux, mais vraiment, l'histoire est dingue, la mise en scène super efficace. Donc moi, j'ai totalement adhéré. Ça s'appelle Une vie secrète.
Merci beaucoup, Mathieu Charrier. Un des films à trouver grâce à vos yeux. Romain.
Oula, vous me prenez de court, là, au cinéma ?
Non, là, dans ce que vient de raconter Mathieu Charrier.
Le dernier.
Une vie secrète, un film espagnol. Oui, c'est un film espagnol.
Ouais. C'est vrai, hein, cette histoire.
Vous connaissez cette histoire ?
Oui, oui, oui. Bah, j'habite en Espagne, donc j'ai été au courant de ces histoires-là. Alors, en Espagne, il y a un truc, c'est que tout est... Alors, c'est assez marrant, parce que tout le cinéma et les séries télé et les romans sont tous tournés sur 1936. Il faut vraiment écrire des bouquins historiques. Oui. Moi, je ne marche pas en Espagne, parce que je n'écris pas des bouquins de 1936. Mais c'est assez incroyable. Tout
tourne
autour de ça.
Vous n'auriez jamais dû dire ça. Parce que maintenant, on sait que votre roman ne se passe pas en 36. Vous êtes fou, vous venez de spoiler un petit bout. Vous restez avec nous. Merci Mathieu Charrier. On parlait jeux vidéo avec Clément Le Saffre.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Romain Puertola, je vous présente Clément Le Saffre qui est fan et grand connaisseur de jeux vidéo.
Bonjour Romain.
Samedi, je vous apprends rien, que vous soyez en France ou en Espagne, ce sera Halloween. On pourrait presque l'oublier avec le contexte actuel et avec le couvre-feu, pas de soirée déguisée, pas de séance de mini au cinéma non plus. Heureusement, vous avez prévu quelques jeux vidéo pour nous faire peur.
Ouais, trois jeux parfaits pour Halloween, hein. Fantôme, sorcellerie, monstre, j'en ai pour tous les goûts. Alors allumez votre ordinateur ou votre console, mais éteignez la lumière. Je vous propose qu'on fasse par tranche d'âge. Donc on va commencer avec un jeu pour les enfants, hein, que je vous ai déjà recommandé à sa sortie. C'est Luigi's Mansion 3. Luigi, Mario, Peach et leurs amis passent leurs vacances dans un hôtel. Hein. C'est le monde de Nintendo, fantastique. Mais pas de chance, il est tenté cet hôtel et Luigi va devoir sauver ses amis en le débarrassant de fantômes plutôt rigolos. Alors je vous ai déjà dit beaucoup de bien de ce jeu dans d'autres chroniques, je ne vais pas m'étendre. C'est vraiment un super jeu, gentiment effrayant, un parfait pour une soirée parents-enfants avec un paquet de bonbons et une citrouille éclairée sur la table. Alors je précise, c'est jouable sur la Nintendo Switch.
À partir de 7 ans, vous avez plus de 7 ans quand même Clément.
Oui, mais on peut s'amuser quand même.
On passe au deuxième jeu, si je vous suis bien, on va s'adresser aux ados.
Oui, avec Little Nightmares, un jeu qui est sorti en 2017. Si vous l'aviez raté, c'est vraiment l'occasion de vous rattraper. Oubliez hein, les gentils fantômes, cette fois on passe aux monstres qui vont vous faire trembler. On incarne une petite fille vêtue d'un ciré jaune, elle est prisonnière sur un bateau et il va falloir l'aider à s'échapper en évitant les êtres humains difformes qui peuplent les lieux. La fillette n'a pas de pouvoir, hein. C'est une fillette, hein, elle est normale, donc on va pas se battre dans ce jeu, il faut se cacher au bon moment, ramper sous les tables, grimper sur les étagères, etc. etc. Et ce qui rend Little Nightmares si génial, c'est d'abord cette ambiance angoissante, bien sûr, avec des monstres qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Le boucher avec son grand couteau à côté de son billot ensanglanté, les poupées désarticulées, la bibliothèque pardon, plongée dans le noir. Vous allez sursauter, moi je vous le garantis. Alors, ça fait peur, mais par contre, c'est pas violent. Hein. Le bateau et ses occupants semblent plutôt sortis d'un rêve ou d'un cauchemar d'enfant. Dans l'esprit, ça rappelle en fait pas mal les films de Tim Burton. C'est très original et c'est disponible, je précise cette fois, sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, bref, partout. Et c'est interdit au moins de 16 ans.
Alors là, ça fait deux. Et donc le troisième jeu, Clément, donc c'est pour les adultes, c'est Halloween. Donc j'imagine que là, ça va saigner.
Oui, alors cette fois, on va s'accrocher à notre siège parce qu'on va y aller carrément. Voilà Little Hope, une histoire de malédiction bien, bien flippante. Hein, celle de cinq amis qui se retrouvent piégés dans la ville fantôme de Little Hope aux États-Unis, ville dans laquelle, en 1692, de nombreuses femmes accusées de sorcellerie ont été, au choix, brûlées, noyées ou torturées.
Tous ces morts, tant de morts. La véritable question était de savoir si les accusés s'étaient vraiment accoquinés avec le diable ou si leurs accusateurs étaient eux-mêmes manipulés par une présence malfaisante.
Ensemble, grâce à Dieu, Little Hope triomphera.
À moins que la réponse ait été tout autre. Nous le découvrirons, et il le faudra bien si vous voulez survivre et protéger vos amis.
Alors là, voilà, clairement, on est dans l'horreur. Hein. On va pas se mentir, âme sensible, s'abstenir. On alterne en fait entre le passé, cette chasse aux sorcières horrible au XVIIe siècle, et le présent avec nos malheureuses victimes qui, elles, n'avaient rien demandé en 2020. Et tout le sel du jeu, ce sont les choix en fait qu'il faut faire régulièrement. Par exemple, à un moment, deux des amis du héros sont en danger, mais vous ne pouvez en sauver qu'un. Il faut choisir, et ce choix aura des conséquences pour la suite de votre aventure. Donc c'est un jeu qu'on peut faire plusieurs fois en fait. Et Little Hope est donc un jeu très cinématographique, on l'a entendu dans la bande-annonce. Les graphismes sont réalistes, on dirait un film dans lequel finalement on peut intervenir au moment, par exemple, vous avez toujours eu envie dans le film d'horreur, vous savez, vous intervenez, non, on fait pas ça. Et voilà, vous pouvez le faire. Ça ne lésine pas, hein. Par contre, sur l'hémoglobine et les jumpscares, hein, ces moments, vous savez, de surprise où votre cœur rate un ou deux battements parce qu'un monstre a surgi du placard. Alors, je m'excuse par avance, vous allez peut-être avoir un peu de mal à dormir après cette chronique.
Mais à ce point.
Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment se faire peur. Et Halloween, c'est la bonne nuit pour ça. Donc, ce jeu s'appelle Little Hope. Ça sort vendredi sur PS4, Xbox One et PC. Et c'est interdit. Cette fois, au moins de 18 ans.
Si je peux dire un truc,
sûr,
la voix de ce monsieur, la grosse voix qu'on vient d'entendre, c'est celle qui ouvre le film du Fakir.
Ah,
ouais.
Ah bah voilà.
Pas, du coup, c'est pas cauchemar. Il ouvre le film, c'est les premières secondes du film qui sont très, 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 très belles. Pour le coup, c'est pas effrayant, c'est très joli.
Évidemment, je le savais, hein, c'était tout, c'était prévu.
Et vous êtes fan de jeux vidéo ? Vous avez été gamer ?
Alors, non, pas gamer, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais DJ et compositeur-interprète, là, avec mon premier cachet que j'ai eu à Sony Pictures, ici à Paris, j'ai fait des musiques pour Stomy Bugsy et pour d'autres rappeurs, j'ai gagné 500 francs, je crois. Je me suis acheté la PlayStation avec le FIFA, le premier. Ouais. Alors, je sais plus où ils en sont maintenant, FIFA.
21.
On va arriver en 2021.
Moi, j'ai le FIFA, hein, je crois.
Collector, il faut le garder, vous le revendez dans 10 ans, il vaudra 30 000 euros.
Et vos enfants, ils jouent au jeu ?
Ouais, alors je joue avec eux, hein, je ne les laisse pas jouer, ils ont 7 et 9 ans, on les contrôle beaucoup quand même. Et donc, on joue ensemble à la Wii. Alors, pour le coup, on joue à House of Dead, ça va bien avec Halloween, là, on va dire. Parce que quand on allait dans les arcades de jeux, là, on dépensait des euros et des euros avec House of Dead, ça ne s'arrête jamais, enfin, ça s'arrête trop vite. Donc, on l'a en Wii. Voilà.
Vous savez quoi faire samedi soir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément Le Saffre et bravo pour cet accent anglais Sony Pictures, on les salue. Vous restez avec nous, Romain Puertolas.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Sous le parapluie d'Adélaïde, c'est le nouveau roman de Romain Puertolas qui vient de sortir, c'est chez Albin Michel. Je voudrais revenir sur votre premier roman, L'extraordinaire voyage du Fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. C'était en 2013, traduit dans 40 pays, 1,5 million d'exemplaires vendus, qui est devenu un film. Et j'ai retrouvé un papier de l'époque, Figaro, 30 octobre 2013. Le titre, l'incroyable parcours de Romain Puertolas, auteur inconnu il y a quelques semaines et qui bat des records de vente. Vous l'avez vécu comment ? C'était comme un conte de fées ou c'était un épisode de plus à votre vie déjà romanesque ?
Non, oui, ça a été un conte de fées. Hein. Oui, j'ai beaucoup changé de pays, de profession. J'ai déménagé 39 fois dans ma vie. Donc je suis quelqu'un qui aime le changement, qui est toujours, comme on dit, le cul entre deux chaises. Mais ça, ça a été vraiment une avalanche, un conte de fées qui m'est arrivé du jour au lendemain. Quoi.
Vous avez quel âge ?
Là, j'ai 44 ans. Je vais avoir 45 ans en décembre.
Vous avez déjà été DJ à Grenoble, prof de France en Espagne, steward, magicien, capitaine de police. Vous avez raté ou réussi le concours de contrôleur aérien ?
Non, je l'ai raté, mais j'ai travaillé dans le contrôle aérien.
Vous avez été publié dans 40 pays, je l'ai dit, c'est vrai que certaines...
50.
50 ouais. Ah ben moi j'avais 40, maintenant c'est 50, ça bouge 50, tout le temps. Ça. C'est vrai que certaines maisons d'édition étrangères l'ont acheté sans même l'avoir vu, sans même l'avoir lu, juste à cause du titre.
Ouais, le titre a été pour beaucoup. Hein. Moi, je voyais les avances qui passaient. Mais ça a fait boule de neige, en fait. Et les gens voulaient le PDF. C'est quoi ce truc avec un fakir dans une armoire Ikea et tout ça ? Et ils achetaient...
Le titre est de vous.
Le titre est de moi, oui.
Est-ce que vous avez fait des collaborations avec Ikea ? Est-ce qu'ils vous ont
contacté ? Pas du tout,
ils vous ont contacté ?
Ils m'aiment pas du tout.
Ou est-ce qu'ils ont essayé de vous interdire ? Ils vous aiment pas ?
Oui, non, ils nous ont contactés plusieurs mois après en nous disant qu'il fallait qu'on enlève le mot Ikea, qu'on enlève le logo d'Ikea qu'il y a sur la couverture, qu'on enlève les couleurs bleu-jaune, qu'on mette une phrase qui dit qu'ils n'ont rien à voir avec nous et tout ça. Voilà. Donc, l'amiable, on a réussi à avoir des...
Et vous avez cédé sur quoi ? La phrase qui dit ?
On a juste cédé sur la phrase pour le monde entier et on a enlevé le logo. Tout le reste a été gardé.
Dans votre roman « Tout un été sans Facebook », c'était en 2017, il y a cette phrase de votre héroïne qui s'appelle le lieutenant de police Agatha Crispies. Elle dit « On commence par dire qu'il y a des sous-livres et après on dit qu'il y a des sous-hommes. Le snobisme littéraire est une plaie aussi néfaste que l'illettrisme. » Vous avez souffert ou vous souffrez de ce genre de catégorisation ?
Oh, je sais pas, mais c'est vrai qu'on entend toujours des gens qui disent ça c'est un bon livre, ça c'est un mauvais livre, ça c'est un classique, ça c'est pas un classique.
Ou c'est un roman de gare.
C'est qui les gens ? Ouais, c'est qui les gens qui statuent comme ça sur la qualité d'une œuvre ? Un livre pour moi c'est quelque chose de tellement personnel. On peut, et il est à nous le livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas.
On est d'accord. Ma question était est-ce que vous avez souffert ? Est-ce que vous avez déjà souffert qu'on dise c'est des romans de gare, des romans qui se lisent vite ?
Bon, on n'a pas dit des romans de gare, mais on peut dire oui, des romans faciles et tout ça. Et puis vous savez, en France, dès qu'on commence à vendre beaucoup, ben voilà, on est sous le feu des flèches, voilà, des haters dont parlait François Bunel tout à l'heure. Mais moi, je m'en fous un petit peu. Voilà.
Je me souviens que dans l'entourage de Sartre, on disait de Camus que c'était la lecture pour élève de terminale, philosophe pour élève de terminale.
Ouais, et de Jules Verne. Verne, on disait que c'était pour les enfants.
Mais évidemment. Vous racontez un de vos fantasmes dans une interview à 20 minutes, je trouve absolument formidable, un fantasme d'écrivain évidemment. Vous dites « Arriver dans un aéroport, me présenter à un chauffeur qui tient une pancarte, me faire passer pour celui dont le nom est inscrit dessus et voir où cela m'amènerait ». Vous avez déjà osé franchir le pas ?
Non, mais je l'ai fait littéralement, parce que je l'ai fait dans la suite du Fakir.
Ouais.
Dans le Fakir 2 qui s'appelle Le Nouveau... Oh, je ne me rappelle plus. Mais avec un long titre.
Le gars, il ne connaît pas les titres de ses propres livres.
Les nouvelles aventures du Fakir au pays d'Ikea. Voilà. J'ai eu un trou. Et je l'ai fait, voilà, mais j'ai toujours rêvé de faire ça, parce que je passe ma vie dans les aéroports et je vois toujours ces gens avec des pancartes. Ouais. Et j'ai toujours envie d'aller voir le mec et lui dire bah, bonjour, ça va ? Et qui m'emmène
et c'est
vers quelques... Voilà,
vous écrivez toujours vos livres sur votre portable ? Oui, non ?
Oui, oui.
Dingue, incroyable. Merci beaucoup, Romain Puertolas. Je rappelle, Romain Puertolas, le titre de ce roman, Sous le parapluie d'Adélaïde, c'est chez Albin Michel. Vous avez quitté le dilettante pour aller chez Albin Michel. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec notre invité, monsieur le président François Hollande, pour un livre qui explique le fonctionnement de l'État aux jeunes et aux moins jeunes. Et puis, ironie de l'actualité, on va recevoir deux journalistes du Point, Étienne Jernel, le patron, et Jérôme Vincent, qui publie le palmarès des hôpitaux et des cliniques 2020. C'était vraiment le moment. Après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, c'est le nom de l'émission. Merci encore, Romain Puertolas.
Merci
à demain.
Beaucoup, Philippe.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.